Actualité Santé. Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est Priorité Santé et je suis ravie de vous retrouver toute cette semaine. Claire Hédon est aux Philippines pour préparer une série d'émissions. Vous la retrouverez la semaine prochaine. Aujourd'hui, femmes et épilepsie, quelle spécificité ? Il faut savoir que dans le monde, environ une femme sur 200 fait des crises. À l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie, la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie organise un colloque à Paris aujourd'hui même. Et ce colloque met l'accent sur l'épilepsie au féminin. Contraception, sexualité, grossesse, allaitement, ménopause. Comment gérer ces différentes étapes de la vie quand on est une femme atteinte d'épilepsie? Comment trouver sa place et où en est-on dans les recherches dans ce domaine très particulier? On en parle aujourd'hui avec le professeur Philippe Derambure, neurologue, épileptologue, chef du service de neurologie clinique au CHU de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien là avec nous, comment allez-vous ?
Oui.
Merci en tout cas d'être avec nous en direct des studios de France Bleu Nord. Alors vous êtes épileptologue, vous êtes donc un spécialiste dans le suivi des personnes atteintes d'épilepsie. Alors j'ai vu que sur internet, sur les forums, on se plaint beaucoup, on trouve que la spécialité est trop rare. Où trouver un épileptologue ? Est-ce que ça existe vraiment ? Même on pose la question.
Et oui, c'est un peu le problème de la situation actuelle. C'est vrai que les neurologues sont pas si nombreux que ça. L'épilepsie, une maladie neurologique. Et hélas, tous les plans qui ont été mis en place sur la maladie d'Alzheimer, sur les accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, laissent peu de place à l'épilepsie. Et c'est un petit peu contre ça qu'on essaie de se battre. Parce que c'est vrai que l'épilepsie est la deuxième maladie en fréquence après la maladie d'Alzheimer sur toute la population. Et qu'elle est très fréquente et on a du mal en France actuellement, mais c'est le cas aussi partout dans le monde à la prendre en charge.
Donc on regrette que vous soyez si peu nombreux, mais vous existez bien en tout cas puisque vous êtes avec nous dans Priorité Santé aujourd'hui. C'est donc une spécialité qui a de l'avenir, j'imagine, si j'en crois, donc toutes les demandes en tout cas des malades atteints de l'épilepsie. Je rappelle aussi que vous êtes membre du conseil d'administration de la Fondation française pour la recherche contre l'épilepsie qui organise justement ce colloque aujourd'hui sur les femmes et l'épilepsie. Et nous sommes ravis d'accueillir ici dans ce studio à Paris, Laïla Haddar. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la présidente de l'association Épilepsie France. Vous êtes une jeune femme, mais ça fait déjà presque 10 ans maintenant que vous êtes à la tête de l'association Épilepsie France. Vous avez vu des choses bouger, vous, en 10 ans pour les femmes ?
Pour les femmes, oui, énormément bougé, notamment à travers les médicaments, donc les prescriptions de médicaments, les contraceptions, beaucoup de choses ont bougé. Aussi l'accompagnement au niveau d'une grossesse. Donc on a vu quand même beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. On est passé quand même d'un extrême à une autre où autrefois, dans les années 60, on disait qu'une femme pouvait pas avoir d'enfant. Où il était déconseillé pour une femme enceinte, pour une femme d'avoir d'enfants. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Au contraire, on encourage les femmes à vivre leur vie normalement. Quoi.
Et nous, on va voir donc tout au long de cette émission justement comment traverser toutes ces étapes de la vie le plus normalement possible. Nous aurons en deuxième partie le professeur Ali Thiam, qui est neurologue au CHU de Fan à Dakar, pour parler justement épilepsie chez les femmes au Sénégal. On attend vos questions sur l'épilepsie au féminin, 33 1 84 22 75 75 avec nos spécialistes pour vous répondre. Racontez-nous aussi ce que vous vivez au quotidien, comment vous avez fait pendant votre grossesse pour l'allaitement et utilisez également Facebook, notre page, pour déposer vos commentaires. À la fin de l'émission, Stéphane Besançon et sa chronique « La santé en mangeant », nous l'aurons en direct de Bamako. Comment prévenir et prendre en charge un excès de poids ? C'est sa chronique aujourd'hui. L'épilepsie, une maladie très connue quand même depuis des siècles, mais une maladie toujours taboue, mystérieuse. Professeur Philippe Derambure, est-ce que pour les femmes, elles ont encore plus peur d'être rejetées par la société ?
Ah, je crois que les femmes, comme les hommes, ont peur de la stigmatisation de l'épilepsie. Alors c'est sûr qu'au féminin, ça se vit différemment. Être maman et être épileptique, c'est pas simple. Leïla a bien dit que maintenant, on insiste sur le fait, bien entendu, qu'on peut avoir des enfants quand on est épileptique. Simplement, il faut organiser cela. C'est pas comme une femme qui ne prend pas de traitement. Mais c'est vrai que la stigmatisation liée à cette maladie touche les femmes à un niveau différent des hommes.
Est-ce qu'on se pose toujours la question, Leïla Haddar, quand on est une femme et qu'on est diagnostiquée épileptique, est-ce qu'on se dit, mais est-ce qu'on pourra avoir un enfant? Est-ce qu'on pourra s'en occuper? Est-ce que ça vous a créé à vous encore plus d'anxiété?
Bien sûr, ça a été la première question que je me suis posée, c'est ma vie de femme, comment je vais la vivre avec des enfants? Donc, comment envisager une grossesse? Comment en parler à son époux pour envisager une grossesse? Et cet accompagnement, en fait, le fait simplement de penser qu'il faut programmer une grossesse, c'est anxiogène. On se pose énormément de questions autour de ça.
Et alors vous avez un enfant?
Oui, une petite fille, de 4 ans et demi, que heureusement j'ai adoptée. Je n'ai pas pu avoir de grossesse normale, mais par contre, j'ai fait le choix de l'adoption, qui est un autre combat aussi, parce que l'adoption déjà, c'est très difficile en France, et qui plus est, avec une épilepsie, c'est encore plus compliqué, quoi.
Et c'est ce qui a été le plus difficile, hein, dans votre parcours de femme, de vie de femme?
D'adopter? Oui. Ouais, c'est un combat qui continue encore, hein, parce que j'en ai pas fini, même si elle est avec moi aujourd'hui. On a encore beaucoup de rendez-vous et autres, et c'est vrai que l'épilepsie est toujours le facteur, on va dire, c'est l'épée de Damoclès. C'est que vont penser, parce qu'on a quand même, lors d'une adoption, un suivi au niveau des services sociaux. Et ce suivi, bien entendu, met l'accent sur tous les aspects de la vie quotidienne, de l'enfant et de la maman qui adopte. Et donc effectivement, ça reste toujours problématique, c'est toujours une anxiété, c'est toujours une peur chez moi, quoi.
Alors on a beaucoup de questions, hein, qui arrivent au standard. On va tout de suite prendre Bartel qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Bartel.
Bienvenue. Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur l'antenne des RFI, on vous écoute.
Oui, en fait, Claire, c'est bien Claire en ce moment.
Et c'est Sandrine, Claire, elle est partie aux Philippines.
Ma question était que...
On vous écoute, Bartel.
Pardon ?
On vous écoute, il y a un petit décalage. Allez-y, posez votre question.
Je disais que il arrive des moments où je fais l'amour avec ma conjointe, qui vit avec moi, en fait. Et pendant que nous faisons l'amour, il y a des moments où elle a des crises d'épilepsie. Donc, moi, je me dis souvent que c'est relié au plaisir qu'elle reçoit pendant l'acte, ou, je ne sais pas, quoi. En fait, je me dis que ça a un rapport avec l'acte sexuel. Donc, pour moi, ma question était de savoir si c'était vraiment lié, et si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire pour éviter et comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avant que cela n'arrive.
Merci beaucoup Bartel pour votre question, professeur Philippe de Rambure, donc à Lille. En fait, Bartel se pose la question de comment expliquer ce phénomène où elle peut avoir, ou sa femme, qui est sa copine, qui est épileptique, donc peut avoir des crises pendant la jouissance, pendant l'amour.
Alors oui, ça c'est un des problèmes. C'est vrai que dans les facteurs déclenchants des crises d'épilepsie, il y a en effet l'excitation, le stress, l'émotion, donc on peut bien entendu imaginer que lors d'un acte sexuel, même si ça n'est pas spécifique à l'acte sexuel, l'ensemble peut être déclencheur de crise. Ce n'est pas fréquent, il faut quand même le dire, ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver, il semble que c'est ce qui arrive à cette femme.
Et alors Bartel se pose la question, est-ce qu'il peut faire quelque chose lui pour éviter ça à sa femme?
Alors c'est toujours difficile de répondre à des questions. Il faut qu'il en parle à son médecin. Il faut qu'elle en parle à son médecin. Il faut qu'ils y aillent à deux, consulter en tant que couple, parce que c'est une des questions. L'épilepsie interagit avec leur vie de couple, en l'occurrence dans leur sexualité. Je pense qu'il faut en parler avec leur médecin, essayer de comprendre et de trouver en effet une solution. Il peut y en avoir, mais on peut pas donner de recettes comme ça, ça va dépendre.
Leur vivre avec... Merci beaucoup hein, Bartel pour votre témoignage. Donc il faut aller voir avec votre copine un médecin effectivement pour en parler avec lui, c'est le conseil du professeur. Alors on voit comment vivre avec cette épilepsie un peu tout au long des différentes phases de la vie quand on est une femme. Là, on parlait déjà de l'acte sexuel, de l'amour. Peut-être commencer avec la puberté, professeur. Comment c'est un âge déjà qui chamboule beaucoup les jeunes, et peut-être encore plus quand on est une fille, qu'on est ado, avec l'inquiétude, les règles qui arrivent. Est-ce que ça, il y a un rapport avec les crises?
Oui, alors d'autant plus que l'épilepsie débute très fréquemment à la puberté, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'il y a des formes d'épilepsie qui débutent plus tôt, mais il y a des épilepsies assez nombreuses qui débutent au moment de la puberté, et il va falloir tout de suite expliquer un certain nombre de choses à cette jeune fille qui va devenir femme par la suite. Et c'est vrai qu'on va aborder, d'abord expliquer, dédramatiser hein, ce qu'est l'épilepsie, et ensuite aborder l'avenir de cette jeune fille qui va devenir une femme, en parlant très rapidement des questions que les jeunes filles se posent, la contraception, puis est-ce que je vais pouvoir être maman, et donc la grossesse. Et c'est vrai qu'on n'attend pas l'âge adulte pour aborder ces questions. Il faut les aborder tout de suite, très rapidement, pour avoir cet accompagnement qui est très important sur le plan psychologique. Dire à cette jeune fille qu'elle va être une femme et qu'elle vivra normalement son épilepsie. Ensuite, on adaptera en fonction du type d'épilepsie et de la gravité de cette épilepsie.
Laïla Haddar, vous êtes la présidente de France Épilepsie, vous êtes aussi une jeune femme. Quand vous étiez adolescente, est-ce que vous étiez déjà diagnostiquée épileptique? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous avez eu des angoisses par rapport à l'idée de rencontrer un garçon, une sexualité ou...
Pour être clair, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que lorsque le diagnostic s'est posé, j'avais 17 ans, donc effectivement, j'étais dans une phase jeune adulte, où les questions, on va dire, de couple se posaient énormément. Je veux dire, ça n'a pas vraiment été abordé à ce moment-là. On n'en parlait pas aussi ouvertement qu'on en parle aujourd'hui. Donc, même dans le choix thérapeutique des traitements, la question se posait pas, et aujourd'hui je trouve qu'on a fait un gros progrès à ce niveau-là. C'est que aujourd'hui, quand on découvre une épilepsie chez une jeune fille, le médecin épileptologue se pose la question du bon traitement à introduire d'emblée, ce qui n'était pas le cas pour moi. Et c'est vrai que il faut savoir aussi que quand on est adolescente, quand on est jeune adulte, il y a aussi dans l'annonce du diagnostic ce qu'on appelle le déni. Donc il faut en tenir compte. C'était aussi peut-être des choses que je ne voulais pas entendre, et peut-être que le dialogue à ce moment-là n'était pas ouvert pour que je puisse prendre en considération ce qu'on pouvait me dire.
En parlant de déni, c'est-à-dire vous pensiez que ces crises allaient arrêter, ou que ça s'arrêterait tout seul, ou que...
Alors dans le diagnostic, on m'avait dit, écoutez, c'est passager, vous prenez un traitement et puis nous verrons dans un an ou deux, vous conduisez pas, ne pas conduire parce que j'étais en train de passer mon permis à ce moment-là. Et c'est sans doute à cette époque ce que je ne voulais pas entendre, puisque j'étais dans une phase où, on va dire, ma vie d'étudiante commençait, ma vie professionnelle allait se lancer. Voilà, et je n'avais jamais eu de problème de santé à l'époque, et je ne pouvais pas imaginer que du jour au lendemain ma vie bascule. Donc il y a eu cette problématique, même en tant que femme, puisque à ce moment-là j'étais effectivement en couple avec un garçon, et l'incompréhension, les crises d'épilepsie ont fait que ça a été, on va dire, la première séparation. Je dis ça a été la première séparation, bien qu'on s'est mis ensuite dès qu'on a commencé à expliquer ce que c'était. J'étais quand même autour de moi avec un entourage très très compréhensif. Effectivement, il y a eu cette phase d'appréhension de l'épilepsie qui fait que...
Alors on va enchaîner aussi avec Aminata qui nous appelle de Dakar au Sénégal, qui est aussi épileptique depuis qu'elle a 16 ans. Bonjour Aminata.
Oui, bonjour Sandrine.
On vous écoute.
Comme je l'ai dit tout à l'heure sur le répondeur, moi je suis épileptique, j'ai 16 ans, mais je pense que c'était un peu avant, 14-15 ans, parce que j'étais au collège encore. Donc j'ai commencé à faire des crises assez violentes, convulsives. Et donc comme je disais, période d'adolescence, crise avec les parents, j'ai fait toute la batterie d'examens qui avait été prescrite, mais tout était normal, donc on ne me prenait pas toujours au sérieux, on pensait que c'était du cinéma. Et ça a évolué comme ça, je suis partie faire des études en France, les crises ont continué, j'ai été suivie là-bas avec toute la batterie d'examens à nouveau, traitement, Ensuite, quand je me suis mariée, les crises ont évolué. De crises comme ça, violentes, convulsives, en pleine journée, c'est passé à des crises nocturnes où je me réveillais le matin courbaturée. Et c'est mon mari qui me disait que j'ai fait une crise. En fait, j'ai fait une crise et puis je me suis rendormie tranquillement. Et aujourd'hui, j'ai d'autres problèmes avec l'épilepsie, c'est des absences. Voilà, je suis en pleine réunion, je suis au travail, avec plein de monde autour de la table. D'un seul coup, voilà, c'est le rideau. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à sortir mes mots. On me pose une question, on attend une réponse, je n'arrive pas à répondre. Donc, voilà.
Oui, donc on voit que l'épilepsie a vraiment été un facteur très évoluant chez vous, Aminata. Et aujourd'hui, vous vous posez quelles questions ?
Aujourd'hui, ce que j'aurais aimé savoir, parce que comme les crises, les absences sont à répétition dans une semaine de travail, je peux avoir les absences 3, 4, 5 fois, ça devient un peu handicapant pour moi. Et je me dis, est-ce qu'il y a des traitements qui ont évolué ou bien des examens que je pourrais faire qui pourraient éventuellement montrer une lésion quelque part ? Parce que quand on a fait un scanner, qu'on a fait un électroencéphalo, qu'on a fait un électroencéphalo du sommeil, qu'on dit qu'on ne trouve rien, qu'on vous donne un traitement quand même et qu'on a toujours le problème, on se dit, mais voilà, c'est quoi la solution ? Est-ce qu'il y a des examens nouveaux que je n'ai peut-être pas passé, que je pourrais faire, qui pourraient me permettre d'avoir une vie plus normale ? Est-ce qu'il y a des médicaments nouveaux ? Parce que là, je conduis. J'ai peur de conduire. Mes enfants, j'évite de les amener à l'école. Je demande à papa de le faire parce que, voilà.
Alors, on va demander au professeur Philippe de Rambure, en direct de Lille, de répondre à Aminata, professeur.
Oui, mais Aminata raconte bien l'histoire d'une épilepsie qui résiste au traitement, ce qui est le cas chez un patient sur trois. Donc ça veut dire quand même qu'il y en a deux sur trois qui sont tout à fait sans crise alors qu'ils prennent bien leur traitement. Et dans le cadre d'une résistance au traitement comme c'est le cas, là aussi je ne peux pas répondre compte tenu que je ne connais pas bien son histoire, mais se pose la question en effet d'aller plus loin dans les investigations. Et ce qu'on fait, c'est qu'il faut enregistrer une crise. C'est vraiment un point très important. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui a été fait, notamment dans les explorations en France, mais il serait indispensable qu'on puisse enregistrer une crise, et même une absence, pour savoir quelle est la partie de son cerveau qui est responsable de ça, pour ensuite probablement refaire une imagerie cérébrale, avec notamment une IRM plutôt qu'un scanner, et se poserait la question de voir si cette épilepsie peut être opérée, ce qu'on appelle le traitement chirurgical de l'épilepsie. Voilà la réponse que je pourrais donner. Après, est-ce qu'elle a essayé tous les médicaments ? Il faut voir aussi en fonction du traitement, mais visiblement, ce qu'elle raconte, c'est l'histoire d'une épilepsie qui résiste au traitement. Et c'est vrai qu'il faut se poser la question du traitement qui guérit, qui est ce traitement chirurgical, quand on peut le faire. Mais hélas, on ne peut pas toujours le faire.
Professeur de Rambure, en matière de contraception, par exemple, quand on est une femme, donc quelles sont les précautions à prendre ?
Les mêmes, à savoir, il faut une contraception efficace, quelle qu'elle soit. Il faut se poser la question, est-ce que les médicaments que je prends, et en effet, notamment les anciens antiépileptiques, qui pouvaient, de par un mécanisme qu'on appelle inducteur, interagir avec la pilule, donc faut faire attention. Ces anciens médicaments, je pense par exemple au tégrétol, interagit, ou au gardénal, qui interagissent avec la pilule, et donc la rend moins efficace. Maintenant, on connaît bien ces mécanismes, et c'est vrai, c'est ce que Leïla disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup de progrès avec les nouveaux médicaments qui n'interagissent plus ou beaucoup moins avec les œstroprogestatifs, donc avec la pilule. Et puis aussi, maintenant, il y a vraiment un dialogue avec les gynécologues pour le suivi des jeunes femmes qui ont une épilepsie, pour justement qu'elles aient une contraception efficace. Mais il faut vivre sa vie de femme comme toute autre femme. Juste un petit bémol, c'est attention, certains médicaments interagissent avec la pilule.
Alors, professeur Philippe de Rambure, neurologue, épileptologue, chef du service de neurologie clinique au CHRU de Lille, vous restez avec nous. Également, Laïla Hadar, présidente de l'association Épilepsie France. Dans 3 minutes, on se retrouve après le flash Vivre avec l'épilepsie quand on est une femme. On attend vos questions au 33 1 84 22 75 75. Également, nos pages Facebook, toujours là pour vous.
Priorité santé. Sandrine Mercier.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est Priorité Santé aujourd'hui. Un focus sur l'épilepsie au féminin. C'est l'objet d'un colloque qui se tient aujourd'hui même à Paris à l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie. Et c'est organisé par la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Quels sont les risques pour la future maman et pour l'enfant à naître? Est-il possible aussi d'allaiter sous médicaments antiépileptiques? On attend vos questions au 33 1 84 22 75 75 et sur notre page Facebook. On vous retrouve. Et nous sommes en direct aujourd'hui avec Laïla Hadar, présidente de l'association Épilepsie France, et le professeur Philippe Derambure, neurologue épileptologue, chef du service de neurologie clinique au CHU de Lille. Et vous êtes encore avec nous, professeur, pendant 10 minutes. Vous devez prendre un train pour assister justement au colloque qui se tient à Paris. Alors, dans la vie d'une femme, on a vu différentes étapes, comment faire avec son épilepsie. Professeur, des questions. Effectivement, quand on veut un enfant et que nous est une femme épileptique, on commence par quoi, professeur?
Alors, il faut surtout tout de suite en parler et avant de prévoir cette grossesse, hein, pas annoncer cette grossesse un petit peu dans l'urgence à son médecin. Parce que, bon, il faut qu'il y ait une explication. Et l'explication, c'est que, en effet, la grossesse se passera tout à fait normalement, quel que soit le type d'épilepsie, mais devra être accompagnée, qu'il va falloir ajuster avant la grossesse, peut-être le traitement, en essayant peut-être, si on peut, le diminuer, le simplifier, se poser la question, en effet, des médicaments qui sont tous à risque pour cette grossesse.
Le risque, mais, il est pour quoi ? Pour le fœtus ou...
Alors, le risque, il est pour le fœtus, mais on ne peut pas arrêter les traitements. Ça, c'est vraiment un message. Et il faut savoir que ce risque, il est relativement minime, et il faut l'expliquer. Et il va ensuite dépendre du type de traitement qu'on donne. Bon, je vais prendre un exemple. La dépakine est un médicament qui pose le problème d'un risque plus important et qui est démontré. Et c'est vrai qu'il faut une précaution supplémentaire quand on prend de la dépakine.
C'est un risque de malformation.
Diminuer ce traitement. C'est le risque, c'est la malformation de l'enfant, mais toujours en rappelant que toute grossesse d'une femme normale amène à un pourcentage de 2% de malformation, et que quand on prend des traitements antiépileptiques, on va estimer l'augmentation du chiffre à 4%. Donc c'est une petite augmentation, ça double, mais ça reste que 4%. Ça veut dire que quand même plus de 95% des grossesses se passent normalement sans malformation. Et ensuite, il faut se poser la question du type de traitement. Et c'est vrai qu'on sait que plus il y a de traitements, plus il y a de médicaments, plus la dose est importante, plus le risque peut être important.
Alors chaque année en France, j'ai vu des chiffres, à peu près 5000 bébés qui naissent de mères qui souffrent d'épilepsie.
Oui.
Oui, c'est un chiffre qui progresse, on se porte bien en France.
Alors, c'est un chiffre qui est stable, mais c'est vrai que il y a un vrai accompagnement, et je pense que depuis 10-15 ans, il y a plus cette crainte d'être enceinte. Il y a bien entendu un dialogue à entamer, toujours cette crainte de la malformation, cette crainte aussi, je vais être maman, comment je vais faire si j'ai des crises quand j'aurai un bébé. Mais on rassure, on explique, on parle avec l'entourage aussi, c'est-à-dire avec le conjoint, avec parfois avec aussi les futurs grands-parents, mais surtout en rappelant que cette maman va être une maman comme toutes les mamans et va s'occuper de son bébé, et qu'on va l'accompagner durant sa grossesse et ensuite durant le développement de son enfant.
Professeur Philippe Derambure, il y a une question sur Facebook, Daniel Bocco, qui a un témoignage aussi, puisqu'il nous dit que sa femme travaille dans le domaine de la santé et qu'elle a plusieurs fois dû faire face à des crises d'épilepsie au moment de l'accouchement, et que ça s'est terminé par un décès de la mère ou de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a vraiment un risque pendant l'accouchement d'une crise qui soit fatale?
Alors ça, il faut surtout dire que c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. L'accouchement se passe tout à fait normalement, par voie basse, avec une péridurale qui est tout à fait possible. Et on considère même d'ailleurs que ce n'est pas une grossesse à risque. Ça ne pose pas de problème. Alors après, bon, il peut toujours y avoir un accident. Le risque de crise au moment de l'accouchement, là aussi, il est extrêmement faible. Il doit être accompagné. On peut prescrire parfois des benzodiazépines juste avant, mais ça c'est vraiment un événement qui est très très rare. Donc il faut surtout savoir que les femmes ne doivent pas avoir cette inquiétude et cette anxiété.
Et pour la suite, après l'accouchement, l'allaitement, quelles sont les précautions quand on est sous médicaments?
Alors, il n'y a pas non plus de précautions, c'est-à-dire que l'allaitement est autorisé. On dit aux femmes que de toute façon, le bébé, quand il était dans votre ventre, il a eu un petit peu de médicaments, parce que forcément, vous avez pris des médicaments, il y a eu une dose faible de médicaments qu'il a pris durant toute la grossesse. Donc, au moment de l'allaitement, il y a un petit peu de médicaments qui passent dans le lait, mais ce sera beaucoup moins que durant toute la grossesse, et ça ne doit pas donc empêcher l'allaitement. Par contre, on évitera de prolonger l'allaitement trop longtemps.
Donc vos recommandations, en fait, c'est vous encourager l'allaitement même avec les médicaments, mais il faudrait arrêter à quel moment ?
Alors ça, moi, je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas de recommandation précise. Hein. Oui. Ça va être un cas par cas et à voir avec les médecins qui suivent les mamans. Mais je dirais pas au-delà de 6 mois, en tout cas.
Et avec la ménopause, on va encore profiter de vous, Philippe de Rambure, avant que vous partiez prendre le train. Est-ce que les crises diminuent ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps ?
Alors, là aussi, ça dépend. Elle ne s'aggrave pas, ça c'est sûr. Parfois, l'épilepsie peut s'améliorer au moment de la ménopause. Parfois, ça ne change pas. Mais c'est pareil que la grossesse. On dit que la grossesse, parfois, de façon un peu paradoxale, améliore l'épilepsie. C'est-à-dire des femmes qui faisaient des crises avant d'être enceintes n'en font plus du tout pendant leur grossesse. De façon plus rare, la grossesse peut être aggravante sur l'épilepsie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas arrêter les traitements.
Merci beaucoup, professeur Philippe de Rambure, d'avoir été avec nous en direct depuis France Bleu Nord. Merci aux équipes aussi de la radio de vous avoir accueilli. Donc vous allez prendre
Merci
le train
vous.
Maintenant pour participer donc à ce colloque à Paris. Vous allez intervenir.
Oui, avec les mêmes types de questions que vous avez abordées, à savoir l'épilepsie au féminin et avec toutes les étapes de la puberté jusqu'à la ménopause, en passant par l'étape importante qui est devenir maman.
Merci, je rappelle que vous êtes chef de service de neurologie clinique au CHU de Lille. Bon voyage et très bon colloque aujourd'hui.
Merci à vous.
On fait le pont, toujours dans Priorité Santé entre le Nord et le Sud, et on va partir tout de suite au Sénégal.
Priorité Santé sur RFI.
Et nous accueillons dans Priorité Santé tout de suite en direct le professeur Alé Thiam. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au CHU de Fan à Dakar. Alors l'épilepsie au féminin au Sénégal, comment est-ce que c'est vu aujourd'hui, professeur ? Est-ce que vous voyez des évolutions dans les idées qu'on se fait sur des femmes qui ont l'épilepsie ? Est-ce qu'il y a moins de préjugés aujourd'hui en Afrique ?
Bon, c'est vrai que... Bonjour. C'est vrai que il y a beaucoup d'évolutions parce que nous sommes mis là-dessus dans la Ligue nationale contre l'épilepsie depuis 1995. Où notre rôle, c'était de sortir l'épilepsie de l'ombre, que c'était le slogan de l'OMS, et le Sénégal a été ciblé comme point de presse, si je peux dire, mais en tout cas un point d'étude qui a permis de faire beaucoup de choses là-dessus et de faire avancer la compréhension de la maladie et la prévention, et surtout la prise en charge de ces malades.
La compréhension de la maladie, effectivement, c'est de bien dire que c'est une maladie, que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas le diable.
Voilà, c'est pas ça. Effectivement, c'est des préjugés qui ont longtemps vécu et qui continuent à survivre, d'autant plus que la plupart de nos guérisseurs traditionnels avaient fait l'amalgame d'associer les crises non épileptiques aux crises épileptiques. C'est ça notre gros problème qui a été en partie résolu. Parce que des colloques ont été faits à Dakar par notre direction pour faire des mises au point. Donc ces guérisseurs traditionnels ont compris que les crises non épileptiques peuvent être prises en charge par les guérisseurs traditionnels. À quel est l'épilepsie d'être reconnue pour être envoyée aux spécialistes.
Alors, Laïla Hadar, qui est ici avec nous, elle connaît aussi le Sénégal. Elle a voyagé au Maroc, en Angola, au Sénégal, au Soudan aussi. Donc, vous connaissez bien aussi l'Afrique. Quand vous étiez au Sénégal, Laïla, qu'est-ce que vous avez vécu ?
Alors au Sénégal, j'ai moins vécu la prise en charge de l'épilepsie. Effectivement, j'ai assisté à une ou deux crises d'épilepsie qui étaient, selon la région où j'étais, sud-nord, étaient différentes. Ou l'une, on était encore dans les préjugés. Je dirais préjugés partagés, on va dire, puisqu'il y a toujours l'histoire de la crise convulsive où on met la clé pour. Alors, j'ai pas encore.
On met une clé où ça, dans la main,
hein. Dans la main, voilà, quand la personne convulse. Alors, selon les pays, on dit que c'est pour chasser le diable. D'autres, c'est pour, on va dire, ça fait un espèce de courant, une prise de terre, en somme, pour décharger. Voilà, on a ces histoires-là. Et puis, effectivement, dans l'autre partie, à Dakar, où j'ai eu l'occasion d'assister, où la prise en charge de l'épilepsie était comme en France. En fait, on avait les premiers gestes. C'est une crise d'épilepsie. On entend crier. C'est une crise d'épilepsie. Il faut rien faire. Bon, voilà, on a une partie de préjugés qui reste selon la région et d'autres qui est prise en charge, un peu comme en France, hein, mine de rien. Vous allez en France je vais me faire des ennemis. Et vous allez dans l'Aveyron, en fonction des personnes que vous avez aussi le même réflexe, ou même au Maghreb, hein, le Maroc que je connais très bien. On a toujours ce réflexe de dire attention, c'est une crise d'épilepsie, mais il faut mettre quelque chose dans la main pour chasser le mauvais sort. Voilà.
Et est-ce que les expériences que vous avez faites aussi, Laïla, c'est que vous êtes allée dans ces pays où vous avez qu'un film qui montrait des chirurgies, et ça changeait vraiment la donne.
Alors voilà, en fait, moi j'ai été dans, donc nous on était, moi je suis originaire du Maroc, et donc l'épilepsie était pas très bien connue du côté sud où on connaissait pas très bien l'épilepsie, les manifestations. On apparentait ça beaucoup à la possession, et un jour le réflexe était, comme j'étais présidente d'asso, j'avais une vidéo de la chirurgie de l'épilepsie que j'avais montré, et puis mon entourage, notamment familial, qui connaissait pas du tout l'épilepsie, a commencé à remarquer qu'effectivement l'épilepsie s'opérait. Donc on montrait bien la partie du cerveau qui était malade, le fait qu'on enlevait la personne et là tout de suite le déclic s'est fait, en se disant bah non, finalement c'est pas une maladie du diable, c'est pas de la possession, c'est vraiment une maladie, quoi.
Si ça s'opère chirurgicalement, c'est que voilà, c'est une vraie maladie.
Et de plus en plus maintenant, quand j'y retourne, on me parle toujours d'épilepsie en disant Leïla, je connais une personne qui fait des crises d'épilepsie, est-ce que tu pourrais venir lui parler lors d'un séjour ou autre. Et ça s'est produit aussi, j'avais montré ça parce qu'on fait des partenariats des fois quand je me déplace professionnellement. Effectivement, je vais voir les associations ou des malades quand je peux en trouver. On a pu constater ça aussi en Angola, où j'avais montré ce petit film où les gens étaient hyper étonnés, quoi.
Professeur à l'ETIAM, alors vous êtes toujours, c'est un combat continuel, je dirais, dans votre métier aussi de neurologue, épileptologue aussi, donc de sans arrêt dire qu'il faut trouver des traitements, que c'est pas des crises, que les malades ne soient plus vus comme des démons.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est-à-dire ce que raconte notre collègue marocaine, bon, c'est des choses, c'est des anecdotes, je veux dire. Et des anecdotes comme ça, on en a plein. Le problème chez nous, c'est essentiellement l'accessibilité du malade aux soins. Ils sont à des endroits très reculés et souvent pris en otage par la famille et par les guérisseurs, si bien que quelquefois, quand ils arrivent, c'est pratiquement très compliqué ou très tard. Bon, cela dit, dans les villes, nous organisons régulièrement des séminaires, et je pense que de plus en plus, aussi bien chez l'instituteur qui surveille les élèves que les maîtres coraniques et les familles, et même dans les entreprises, on arrive à comprendre un peu que c'est une maladie qui est curable. Et la stigmatisation, la réclusion, tout ça, je pense que de moins en moins ça se fait dans les régions, dans les villages. Et c'est là où se porte surtout notre problème. Sortir l'épilepsie de l'ombre.
Merci beaucoup, professeur à l'ETIAM. Vous êtes neurologue au CHU de Fane à Dakar, au Sénégal. Merci pour ce témoignage, sortir l'épilepsie de l'ombre. Et on va justement m'apprendre Célia qui a aussi envie de témoigner sur son cas. Célia nous appelle de Libreville au Gabon au 33 1 84 22 75 75. Bonjour Célia, on vous écoute.
Bonjour. Alors oui, voilà mon cas. J'ai eu une première crise d'épilepsie généralisée juste au début de la puberté, quand j'avais 13 ans. Mais dans ma famille, on ne m'a pas emmenée à l'hôpital. On m'a laissée comme ça. Au début, on négligeait. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des symptômes. J'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil. Je ressentais des odeurs que personne ne ressentait. J'avais beaucoup d'impressions de déjà-vu. En tout cas, j'étais très perturbée. Et quand j'en parlais aux parents dans la famille, tout le monde disait que c'était un engouement, qu'il fallait que j'aille me faire soigner à l'indigénat. Et ça m'a beaucoup perturbée pendant des années. Et ce n'est que 20 ans après ma première crise généralisée que j'ai eu une deuxième crise généralisée. Et cette fois-ci, comme j'étais déjà assez grande, là, je suis allée à l'hôpital et c'est seulement là qu'on a diagnostiqué une épilepsie. On m'a dit que c'était une épilepsie partielle avec possibilité de généralisation. Et malgré ce diagnostic, dans ma famille, on continue de dire que c'est un embout qui doit me faire soigner à l'indigénat. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est si, maintenant que je sais que je suis épileptique, j'aimerais essayer d'avoir une vie normale. Parce que j'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir raté toute ma vie. J'aimerais savoir si, avec mon épilepsie, je peux faire des enfants sans transmettre la maladie. Parce que déjà, mon épilepsie, avec les examens, on ne voit rien. Il n'y a pas l'IRM est normal, l'électroencéphalogramme est normal. Et donc, le docteur m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'opération possible. Donc, il y a cette première question.
Donc, votre peur en tant que future maman, en fait, c'est la peur de transmettre cette maladie à votre enfant, si vous tombez enceinte,
oui.
C'est ça, votre peur aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Oui,
alors,
c'est
on va ça. Demander à Laïla Haddar de répondre, présidente de l'association France Épilepsie. On vous reprend tout de suite après, Célia, pour la deuxième question.
Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des enfants. Donc, la question de l'hérédité dans les réseaux sociaux en France se pose. Il faut savoir que la question de l'hérédité dans l'épilepsie, bon, M. Dorambure est parti, ça représente vraiment une infime... C'est vraiment infime, quoi. Bon, en général, les épilepsies sont d'ordre génétique et quand on parle d'hérédité, c'est que si on voit qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas de membres dans la famille qui présentent déjà des crises d'épilepsie, on peut, je dirais, je suis pas médecin, mais on peut exclure ce côté héréditaire de l'épilepsie. Et encore même, si on avait un enfant épileptique, bah peut-être que cet enfant a le droit de vivre, de continuer à vivre et on vivrait au jour le jour comme
il ferait
si
son chemin.
Il
aussi, voilà, ce serait son
déclencher une épilepsie bien plus tard. Donc je pense qu'il faut pas vivre avec la peur d'avoir un enfant ou de si vous trouvez l'homme idéal, l'homme de votre vie et que celui-ci est compréhensif autour de la maladie et prêt à vous accompagner, bah allez-y, moi je dirais c'est le conseil que je donne à toutes les mamans, c'est allez-y. Maintenant que vous avez effectivement un diagnostic dit d'épilepsie et un accompagnement on va dire médical hors la famille et les préjugés, bon, vous avez quand même des amis, si ces gens-là sont là autour de vous, bah j'ai qu'une chose à vous dire, c'est y aller, parce que c'est aussi un accomplissement de soi et ça remotive énormément. Et comme le disait tout à l'heure en première partie le Philippe Dorambure, avoir un enfant c'est responsabilisant. Donc on fait beaucoup plus attention, on fait attention à notre hygiène de vie, on fait attention à beaucoup de facteurs auxquels on ne faisait pas attention autrefois et qu'aujourd'hui ben on pèse sur la balance et on se dit pour justement l'accompagnement que ce soit de la grossesse ou que ce soit ou de l'arrivée future de l'enfant, on s'assagit. Parce qu'effectivement, on n'est pas toujours sage.
Et on grandit personne. Aussi avec ses enfants qu'on met au monde. Célia, vous aviez une deuxième question.
Oui. Comme pendant des années, j'ai été stressée par tous les symptômes que j'avais et les symptômes que je ne comprenais pas, j'ai accumulé des petites maladies. J'ai une maladie de la peau, j'ai un ulcère et maintenant j'ai des fibromes. Ma neurologue m'a expliqué qu'en cas d'opération, il fallait toujours que je signale au docteur que j'étais épileptique. Donc, je l'ai dit à mon gynécologue qui était censé m'opérer, mais lui, il ne comprend pas pourquoi la neurologue m'a demandé de signaler ça. Pour lui, c'est vraiment pas important. Mais du coup, ça me rassure. Je ne veux pas me faire opérer dans ces conditions. Est-ce que je peux faire une crise pendant l'opération? Je ne comprends pas pourquoi je dois signaler au docteur qui m'opère que je suis épileptique.
Alors, le meilleur anti-épileptique pendant une opération, c'est l'anesthésie, donc il n'y a aucun risque, on va dire, d'avoir une crise d'épilepsie. Ça, c'est ce qu'on m'a répondu lors d'une opération. On a dit, vous inquiétez pas, si vous êtes anesthésié, à mon avis, vous avez le meilleur anti-épileptique. Ensuite, en parler à vos médecins respectifs pour un acte chirurgical, c'est hyper important. il faut que le médecin soit averti. Je comprends pas l'attitude de vos gynécologues, parce que de toute manière, le gynécologue, au moment même de, comment dire, du suivi gynécologique en dehors d'un acte chirurgical, il doit être aussi attentif pour tout ce qui est prescription de contraception, de suivi de grossesse et autres. Et donc, c'est important qu'il tienne en compte dans son analyse, on va dire, gynécologique, le facteur épilepsie et puis les traitements, puisqu'on l'a vu, hein, la contraception, ça a des effets inducteurs sur les traitements, etc., etc. Et donc, je pense que c'est essentiel.
Merci beaucoup, hein, Célia, pour avoir témoigné sur l'antenne de RFI dans Priorité Santé. On va continuer avec l'accueil de l'enfant. Vous en parliez, Laïla Hadar. On devient maman, voilà, ça s'est bien passé, l'enfant est né. Et pour accueillir cet enfant, quels sont les gestes, peut-être, pour assurer la sécurité aussi quand on allaite ou quand il est petit, pour changer les couches, donner le biberon? Quels sont les gestes, les précautions à prendre?
Alors, les précautions à prendre, bon, déjà, il faut qu'effectivement, chacun assure son rôle, hein, aussi bien le papa doit être présent pour l'accompagnement. Mais exemple, le bain peut être donné aussi par le papa. Quand on change un enfant, éviter la table allongée, mais le mettre plutôt sur un lit et le changer à ce moment-là. Sinon, tous les actes, on va dire, sont naturels. Surtout l'allaitement, le faire souvent assis. Généralement, on le fait assis, mais il y en a qui le font debout ou portent l'enfant assez régulièrement. Bon, c'est des petites choses qui effectivement s'adaptent. Quand on, par exemple, prendre l'enfant, quand on est maman qui est sujette à des crises d'épilepsie assez régulières, eh bien, effectivement, le pouvoir le porter en étant assise. Le changer sur un lit plutôt que sur une table allongée. Bon, et puis effectivement, quand on arrive
Ces gestes de précaution qui arrivent peut-être d'une manière un peu instinctive quand on a son enfant.
Et puis bon, je pense qu'il faut responsabiliser le papa qui a sa part de responsabilité aussi dans le...
Et pour terminer avec vous, Laïla Hadar, quand vous avez donc adopté votre petite fille, à quel moment vous lui avez parlé de votre épilepsie? Comment quel mot vous avez?
On a des petites BD, on a des petits films, donc elle a vu le petit film, la petite BD. Alors il faut dire qu'aussi c'est une enfant précoce, donc elle a très vite ingéré. Et je pense que dans la famille où elle était au départ quand j'ai adopté, elle avait déjà une notion du handicap, des crises d'épilepsie, elle en avait déjà vu, des malaises. Et donc, en fait, ça s'est fait presque naturellement. Il faut savoir que les enfants sont beaucoup plus réceptifs que les adultes sur ce qui les entoure. Donc,
plus réceptifs à la différence.
À la différence, ouais. Voilà. Mmh. Et donc, c'est plus simple d'expliquer par des mots simples. Mmh. Et parfois, ils veulent se... Voilà.
Merci beaucoup, hein, Laïla Hadar, présidente de l'association Épilepsie France. Merci d'avoir répondu aux questions. On termine tout de suite avec la chronique de Stéphane Besançon, La santé en mangeant.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour Stéphane. En direct
Bonjour,
de
Sandrine.
Bamako. Bonjour. Comment prévenir et prendre en charge un excès de poids pour les auditeurs donc qui ont constaté la semaine dernière qu'ils présentaient un surpoids? On s'interroge. Alors, quelles sont les causes?
Ouais. Alors, d'abord, la semaine passée, nous avons vu que l'excès de poids entraînait des conséquences pour la santé en étant un facteur de risque important de maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires et certains types de cancers. Donc l'excès de poids est essentiellement dû à une balance déséquilibrée entre les apports et les dépenses énergétiques, où les apports sont supérieurs aux dépenses. Ceci se traduit par une alimentation trop riche, en particulier en graisse et en sucre, accompagnée d'un manque d'activité physique.
Et alors donc, quels sont les conseils que l'on peut donner aux auditeurs pour prévenir et prendre en charge un excès de poids?
Pour retrouver un poids satisfaisant, il faut d'abord améliorer son mode de vie en prenant de bonnes habitudes alimentaires tout en augmentant son activité physique. Il faut commencer par changer ses habitudes alimentaires en réduisant la quantité mangée dans une journée par la diminution de la taille des plats et des grignotages, en réduisant la consommation de graisse et de sucre, en augmentant la consommation de fruits et de légumes. Ces changements doivent s'accompagner d'une augmentation de l'activité physique. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé recommande 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Il est aussi important pour nos auditeurs qu'ils soient conscients de plusieurs points, que perdre du poids, c'est un objectif à long terme qui demande de la patience, de la motivation et de la détermination, que les objectifs d'amaigrissement que vous fixez doivent être réalistes et raisonnables. Ils doivent aussi être adaptés à vos contraintes de vie, à savoir les finances que vous pouvez y mettre, mais aussi les conditions de travail et les différentes conditions sociales. Il faut qu'ils sachent aussi que les proches doivent être impliqués dans la prise de conscience des changements à apporter et dans les objectifs fixés pour lever au maximum les barrières sociales. L'avancée doit se faire pas à pas, en pensant que même lentement, vous progressez vers votre objectif, car perdre du poids est difficile. Tout comme stabiliser cette perte de poids dans le temps, qui est encore plus difficile. ces modifications de mode de vie sont si importantes pour les personnes qui ne sont pas encore en surpoids, car elles ne sont pas à l'abri. Si elles s'éloignent d'un bon équilibre alimentaire et diminuent leur activité physique, elles-mêmes, de développer un surpoids.
Alors, on sait aussi que le contrôle du surpoids est très important hein, si on est atteint du diabète. Qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Alors oui, le contrôle du poids, c'est un élément clé pour contrôler le diabète et ses complications, ce que les gens ne savent pas forcément. En effet, il est démontré que la perte de poids entraîne une amélioration des glycémies chez le diabétique en surcharge pondérale. Mais attention, cependant, pas de perte de poids drastique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Une perte de poids de 3 à 10 kilos suivant le poids de départ des patients peut améliorer l'équilibre du diabète, les lipides sanguins, mais aussi la tension artérielle. Ici aussi, les objectifs de poids doivent être réalistes et raisonnables et surtout doivent être individualisés et définis en collaboration avec le médecin.
Merci beaucoup,
pour
Stéphane.
Pour les auditeurs, la semaine prochaine, Sandrine, j'annonce quand même, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes, que je traiterai une chronique et manger trop sucré, ça veut dire quoi exactement?
Très bien, eh bien, on vous retrouvera autour de ça. Manger trop sucré, ce sera lundi prochain. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé aujourd'hui. Eh bien, ah, c'est tout. Samaké, Jeanne Cerquefos, Steven Esli. Et on se retrouve demain. Alors demain, 10 ans après la loi sur le handicap, où en est-on? On fera un bilan avec Ségolène Neuville, qui est la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 75. 75 et sur nos pages Facebook, elles sont toujours là pour vous. On se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien.